Salutations à toutes et à tous. Bienvenue, installez-vous. Détendez-vous, prenez une boisson chaude si vous le pouvez, et on est parti pour une heure de musique ensemble. Vous écoutez la bulle musicale d'Awel sur Quartier des Ondes. Quel plaisir de revenir pour une nouvelle saison d'exploration artistique. Et pour commencer le voyage en beauté, je vous propose de traverser des expéditions polaires, de plonger au cœur d'un réacteur ou au plus profond d'une fosse, de partir à la conquête de l'espace et de garder espoir malgré les tragédies de l'histoire. Aujourd'hui, on découvre ensemble Departure Songs, un album du groupe We Lost the Sea. Sur la pochette, la silhouette noire d'une colline de laquelle se détachent les ombres des arbres sur les côtés. Et au centre, minuscule dans ce paysage, un humain marche. Alors que l'on remonte sur l'image, la colline devient montagne qui se pare de teintes ocre et brune claire. Enfin, sur la partie supérieure, le bleu représente aussi bien l'eau et ses vaguelettes que le ciel et ses nuages. L'objet qui se détache peut alors nous montrer à la fois un bateau et sa ligne d'eau, ou une fusée en décollage laissant une traînée de fumée. Cette première image nous introduit l'album et elle sera accompagnée de ses sœurs, toutes réalisées par Matt Harvey, l'un des membres du groupe. Mais avant de nous plonger complètement dans cette aventure, faisons connaissance avec ceux qui nous les narrent. We Lost the Sea est un groupe de post-rock australien, fondé en 2017. L'idée était de créer un grand projet sonore par la collaboration de divers musiciens. Le nom du groupe, We Lost the Sea, fut choisi pour son côté énigmatique, évoquant l'émotion, mais il n'a pas de sens précis et reste libre d'interprétation. Leur premier projet, titré Crimea, sort en 2009. L'année suivante, ils enregistrent leur album intitulé The Quietest Place on Earth, qui sort en 2012. Departure Songs est donc leur troisième production, sortie en 2015. Le groupe a enfin publié un quatrième album, Triumph and Disaster, en 2019. Malheureusement, peu après que The Quietest Place on Earth ait été rendu public, le vocaliste du groupe, Chris Torpy, met fin à ses jours. Le groupe lui rend hommage lors d'un concert en 2014, dont les bénéfices sont reversés à des associations de prévention et de sensibilisation à la dépression et à l'anxiété. Hasard ou coïncidence, Departure Songs est le premier album entièrement instrumental de We Lost the Sea. Certains y voient ainsi un hommage au chanteur, le groupe étant privé de sa voix. Mais avant tout, Departure Songs est ce qu'on appelle un album concept, c'est-à-dire un projet musical complet qui tourne autour d'un thème, raconte une histoire, suit un fil rouge. Il est inspiré par des quêtes qui, bien qu'elles aient échoué, restent honorables. Des voyages et des départs à travers l'histoire. Sur Bandcamp, le groupe écrit « Departure Songs s'inspire de voyages ou d'événements ratés, mais épiques et honorables à travers l'histoire, où des gens ont fait des choses extraordinaires pour le plus grand bien de ceux qui les entourent et pour le progrès de l'humanité elle-même. C'est une célébration et un hommage. » Chaque chanson a sa propre histoire et est une bande-son originale de cette histoire. C'est notre troisième album et notre premier album expérimental. Nous explorons de nouveaux terrains et nous nous explorons nous-mêmes au cours de ces deux et quelques dernières années, depuis que Chris a entrepris son propre voyage. C'est un peu sombre, avec des reflets d'espoir et des couches d'émotion. C'est un hommage et une catharsis d'émotion et d'honnêteté. Alors, sans plus tergiverser, plongeons-nous donc dans ce premier voyage et sa triste fatalité, avec le premier titre, A Gallant Gentleman. Inférieur de l'image est un sol noir. Sur tout le reste de la hauteur, un dégradé allant du bleu ciel au bleu nuit. Au centre, on voit des montagnes en arrière-plan. Au premier plan, une silhouette humaine se ferait difficilement un passage dans la neige, quittant un maigre campement. Il est entouré de mouchetures blanches qu'on devine être de la neige. Courbé, luttant contre les éléments, il paraît minuscule. En 1911, une équipe anglaise dirigée par Robert Falcon Scott lança la première expédition humaine pour atteindre le point le plus méridional du pôle Sud. Une belle ambition qui se verra pourtant soufflée par une autre équipe arrivée juste avant. Il ne leur reste plus qu'à parcourir de nouveau les 1440 km qui les séparent de leur base. Mais si c'était si simple, il n'y aurait pas d'histoire. L'équipe est en mauvaise forme, de nombreux membres souffrent de blessures et d'engelures, et les conditions météorologiques extrêmes ne font qu'aggraver la situation. La première perte du groupe est Edgar Evans, tombé dans une crevasse glacée. Ralenti par le blizzard et le terrain difficile, les hommes voient leurs provisions s'amoindrir. À ce moment-là, celui qui se trouve dans le pire état est le capitaine Lawrence Oates, un ancien officier de l'armée britannique. Touché par la gangrène, il sait que sa fin est proche. Il prie les autres de l'abandonner pour ne pas les ralentir, mais il refuse de le laisser derrière. La nuit suivante, le 16 mars 1912, Lawrence Oates quitte sa tente, laisse ses bottes où elles étaient, se tourne vers ses collègues et dit « Je vais juste faire un tour dehors. Ça pourra prendre un petit moment. » Il espérait sauver leur vie en sacrifiant la sienne. Il savait qu'il était devenu un fardeau pour ses amis, que leur chance de survie serait meilleure sans lui. Il est donc parti, seul, dans l'oubli. Ne reste de lui que le souvenir et cette photo sépia. Il porte un pull et regarde au loin. Son visage est fermé. Il est dans ses pensées. Toujours la bulle musicale d'Awell sur Quartier des Ondes. Aujourd'hui, on se laisse emporter par l'album Departure Songs du groupe We Lost the Sea. Quittons les étendues glacées du premier titre A Gallant Gentleman pour aller faire un tour dans la petite ville ukrainienne de Pripyat. Le ciel est jaune, et au centre de l'image, on reconnaît Pripyat à sa grande roue. En arrière-plan de la ville, la silhouette de la centrale nucléaire fume. Trois hommes se détachent au milieu, tout petits face au bâtiment, à la centrale et à la fumée qui s'en échappe. Ils se tiennent au-dessus d'une crevasse dans le sol, dont la lumière est de plus en plus faible. Lors du nettoyage de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986, il fut découvert que le réacteur nucléaire était inondé d'eau radioactive. La vapeur de cette eau volatile menaçait d'exploser et transporter des gaz radioactifs dans une grande partie de l'Europe. Il fallait ouvrir les vannes pour relâcher la pression dans la chambre et sauver l'Europe des retombées nucléaires. Pour vidanger le réacteur, on devait plonger dans l'eau et ouvrir la soupape de décharge à la main. Cela signifiait une mort certaine et douloureuse. Trois hommes se portèrent volontaires, aujourd'hui connus sous le nom d'escouade suicide. Ils n'ont pas demandé la gloire ou la richesse, simplement qu'une fois morts, leur famille soit dédommagée et prise en charge. Trois hommes ordinaires ont alors fait une chose extraordinaire. Valérie Bespalov, Alexei Ananenko et Boris Paranov ont plongé dans les profondeurs du réacteur. Après que la seule lampe qu'ils avaient avec eux soit tombée dans l'obscurité, les trois hommes se frayèrent un chemin à tâtons vers la porte et achevèrent leur sombre mission en ouvrant la vanne. 10 jours plus tard, tous les trois ont été enterrés dans des cercueils de plomb. Le folklore russo-ukrainien raconte l'histoire des Bogatyri, trois vaillants chevaliers d'autrefois réalisant des prouesses patriotiques. Alyosha Popovitch est réputé pour sa bravoure, Dobrynya Nikititch pour son courage, Ilya Mouromets pour sa force spirituelle et son intégrité, et tous pour leur dévouement à la protection de leur terre et de leur peuple. Bogatyri est le nom de ce morceau. Vous êtes sur Quartier des Ondes, nous sommes toujours au cœur de notre bulle musicale et j'espère que je ne vous ai pas trop ruiné le moral, car après Bogatyri, dont on vient d'écouter un extrait, The Last Dive of David Shaw n'est pas vraiment plus joyeux. Cette fois-ci, le ciel est une teinte verdâtre et ne couvre qu'une petite partie de l'image. Les silhouettes des montagnes s'assombrissent progressivement jusqu'à n'être plus qu'une masse noire. Mais au centre, une crevasse perce l'obscurité pour s'y enfoncer. Là, encore une fois minuscule face à la nature, un plongeur descend. Au cours de l'histoire, moins de 10 personnes ont plongé à une profondeur de 250 mètres. C'est moins que les personnes qui ont marché sur la Lune. David Shaw était l'un de ces hommes. Bosman's Gat est une grotte d'eau douce enterrée haut dans les montagnes d'Afrique du Sud. Elle est vénérée et redoutée par beaucoup. Lors d'un record mondial de plongée, David Shaw découvre le corps d'un homme, John Dreyer, qui avait été perdu 10 ans plus tôt. David abandonne immédiatement sa plongée et retourne à la surface avec un seul objectif en tête, ramener le corps de Dion et sa famille. Entouré de la communauté internationale de plongée et de beaucoup de journalistes, David s'engouffre dans la zone morte, sachant que ce pourrait être sa dernière plongée. Après avoir atteint le corps, David s'est emmêlé dans ses lignes, luttant pour faire surface avec le corps de Dion en remorque. David a finalement cédé dans les profondeurs, et il s'est glissé dans l'obscurité éternelle. Alors qu'il tentait de récupérer l'équipement de plongée 4 jours plus tard, l'équipage restant a tiré de manière inattendue le corps de David à la surface. Et attaché à lui était le corps de Dion Dreyer. David avait accompli sa tâche, et il en avait payé le prix ultime. La femme de David Shaw a dit plus tard à propos de la mort de son mari. Il était comme un oiseau. Vous mettez un oiseau dans une cage ou vous le laissez voler librement. Si vous le mettez en cage, il ne sera jamais vraiment heureux. Mais le faire voler librement est toujours un risque. Il y avait toujours la possibilité qu'il ne revienne pas. David Shaw était un technicien plongeur et pilote d'avion australien. Sa dernière plongée fatale fut en 2005. Le titre « The Last Dive of David Shaw » contient des extraits d'une vidéo du même nom, montrant ses derniers moments. Et avec cela, nous arrivons aux 2 derniers morceaux de l'album « Departure Songs » par le groupe We Lost the Sea. Après avoir traversé le froid et plongé dans l'obscurité, il est temps de lever les yeux vers le ciel.
I found that sometimes I'm able to control a dream and sometimes I'm able to direct myself before going to sleep to dream about a certain subject, and sometimes not. The important thing was to see your hands in a dream. And I made an effort to do this a number of times. And only a couple of times did I succeed in actually seeing my hands. See,
they have made experiments of waking people up. Whenever they start to dream, they can tell by the rapid eye movements and also by the brain waves. The brain waves of dreams are very much like the brain waves of people when they're waking. And if they keep interfering with the REM sleep as the dream sleep, very soon the subject will show all the symptoms of sleeplessness, no matter how much dreamless sleep they allow. And eventually it will be fatal. It's within 2 weeks or so. So we know now that dreams are a biological necessity, which means they must serve a very important function. Next step is to go into space to leave the planet. We're not there yet. Here we have an artifact weighing about 170 pounds that cannot exist outside of a very specialized environment. Sort of the whole aquarium. The official space programs, how do they propose to solve this? Well, they're going to move this whole artifact, the human artifact, in its environment from one place to another. It wouldn't occur to them to start from the other end. You have an object, X, that's the human body, and you want to transport X, say, from Earth to space from E to S. And X is heavy, and it can only live in a whole medium. So why not alter X to reduce its weight and its dependency on its medium? That would seem to be a logical approach to the problem. This would not occur to the official program because they accept the human artifact with all its limitations. In effect, they accept the limitations imposed by Christianity, by what Coley calls the slave gods. Dense for space conditions. We have a model to hand, and that is less dense, in fact almost weightless, and that would be the astral or dream body. So the function of dreams may be to prepare us for space, and that is why they are a biological necessity. But we're not there yet.
L'illustration est sobre mais puissante. Une fusée décolle dans le ciel, créant une explosion au sol. En miroir, on voit son reflet dans l'océan. Par un froid matin de janvier 1986 en Floride, la navette spatiale Challenger a explosé à peine 73 secondes après le début de son vol, tuant les 7 personnes à bord. 6 astronautes et une civile, l'enseignante Krista McAuliffe. Les images de la destruction de Challenger et de ses capsules retombant lentement sur Terre ont été diffusées en direct à la télévision, notamment par les élèves de l'enseignante. Il y avait également un public sur place, dont les parents de Christia. Le choc fut général dans le monde. La catastrophe du Challenger montre la détermination de l'humanité à explorer le grand inconnu. La recherche sans fin d'une meilleure compréhension de ce qui nous sommes, à la fois personnellement et en tant qu'espèce. Cela montre notre détermination à être meilleurs et que nous sommes tous piégés sur ce minuscule grain de poussière dans un univers infini. C'est aussi un rappel magnifique et tragique de ceux que nous avons perdus en cours de route, de ceux qui ont brûlé trop vite et trop fort, et dont la lumière s'est éteinte trop tôt. C'est ce qu'écrit We Lost Jesse sur Bandcamp à propos du morceau Challenger, Part 1, Flight. Tout au long du morceau, on entend l'enregistrement de On Dreams, une conférence de William S. Burroughs tenue en 1980 à l'école de la poétique désincarnée Jacques Kerouac. La conférence entière dure 90 minutes et évoque différents sujets comme le rêve, la conquête spatiale, l'arme nucléaire, le désarmement, les aliens, la fonction de l'artiste, l'écriture, les drogues, la télévision ou encore l'économie. Voici la traduction de l'extrait qu'on a entendu dans l'introduction du morceau de We Lost the Sea. J'ai découvert que parfois, je suis capable de contrôler mon rêve et de me diriger avant de m'endormir pour rêver de certains sujets. Et parfois, je ne le suis pas. L'important est de voir ses mains dans le rêve, et j'ai fait des efforts pour le faire de nombreuses fois, mais je n'ai que rarement vu mes mains pendant un rêve. Pour moi, l'un des nouveaux faits les plus importants concernant les rêves est qu'ils sont une nécessité biologique. On a fait des expériences pour réveiller les gens chaque fois qu'ils commencent à rêver. On peut le dire par des mouvements oculaires rapides et aussi par les ondes cérébrales. Les ondes cérébrales des rêves ressemblent beaucoup aux ondes cérébrales des gens lorsqu'ils sont réveillés. Et s'ils continuent d'interférer avec le sommeil paradoxal, comme le sommeil de rêve, très bientôt, le sujet montrera tous les symptômes de l'insomnie, peu importe la quantité de sommeil sans rêve qu'il a. Et finalement, ce sera fatal dans les 2 semaines environ. Nous savons donc maintenant que les rêves sont une nécessité biologique, ce qui signifie qu'ils doivent remplir une fonction très importante. La prochaine étape est d'aller dans l'espace, de quitter la planète. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ici, nous avons un artefact pesant environ 170 livres qui ne peut exister en dehors d'un environnement très spécialisé, une sorte de scaphandre autonome. Et les programmes spatiaux officiels, comment proposent-ils de résoudre cela ? Ils vont déplacer tout cet artefact, l'artefact humain, dans son environnement, d'un endroit à un autre. Il ne leur viendrait pas à l'esprit de partir de l'autre bout. Maintenant, vous avez un objet X, c'est le corps humain, et vous voulez transporter X, disons, de la Terre à l'espace, de E à S. Mais X est lourd et ne peut vivre que dans un milieu entier. Alors pourquoi ne pas modifier X pour réduire son poids et sa dépendance à son support? Cela semblerait une approche logique du problème. Et cela ne se produirait pas dans les programmes officiels, car ils acceptent l'artefact humain avec toutes ses limites. En effet, ils acceptent les limitations imposées par le christianisme, parce que Crowley appelle les dieux esclaves. Maintenant, le corps humain est beaucoup trop dense pour les conditions spatiales. Mais nous avons un modèle sous la main, et qui est moins dense, en fait, presque en apesanteur, et qui serait le corps astral, ou le corps de rêve. Et je postule que la fonction des rêves peut être de nous préparer à l'espace. Et c'est pourquoi ils sont une nécessité biologique. Mais nous n'en sommes pas encore là.
We'll be right back.
Nous voilà arrivés au dernier titre de cet album, et donc au dernier voyage de cette bulle musicale, sur l'album Departure Songs de We Lost the Sea. Ce morceau est la suite du précédent, puisqu'il s'intitule cette fois-ci Challenger Part 2, Swan Song. Entre deux silhouettes de falaises, celle d'un homme se détache sur un chemin bleu. En arrière-plan, une rivière, des montagnes, la grande roue de Tchernobyl, une fusée qui s'envole dans le ciel, ciel qui devient aussi une étendue d'eau où un plongeur s'enfonce. Sur cette dernière illustration, tous les thèmes de l'album se mélangent. Ce dernier morceau est accompagné dans l'album par le poème de guerre de John Gillespie Magee Jr., un pilote de ligne anglo-américain de la Royal Canadian Air Force. Il décède en 1941, durant une collision aérienne. Si l'on traduit ce sonnet, son titre donne alors « Au vol, High Flight ». Et en voici les vers. Oh, j'ai glissé les liens hargneux de la terre et dansé les cieux sur des ailes argentées de rire. Vers le soleil j'ai grimpé et j'ai rejoint la joie tumultueuse de nuages fendus par le soleil et fait cent choses dont vous n'avez pas rêvé, roulé et plané et balancé haut dans le silence ensoleillé. Planant là, j'ai chassé le vent hurlant et lancé mon embarcation passionnée à travers des halles d'air sans pied. En haut le bleu long, délirant et brûlant, j'ai surmonté les hauteurs balayées par le vent avec une grâce facile, où jamais alouette ni même aigle n'a volé. Et, alors qu'avec un esprit silencieux et inspirant, j'ai foulé la haute inviolabilité de l'espace, j'ai tendu la main et j'ai touché le visage de Dieu. Challenger Part 2, Swan Song, clôt 58 minutes de tragédie par une note d'espoir. On peut entendre un extrait du discours de Ronald Reagan à la Nation après le désastre du Challenger. Le discours se clôt en citant le poème High Flight de John Gillespie Magee Jr. Je cite « Nous avons grandi habitués aux merveilles de ce siècle, difficile de nous éblouir. Nous avons grandi habitués à l'idée de l'espace, et peut-être oublions-nous que nous ne faisons que commencer. Nous sommes toujours des pionniers, parfois des choses douloureuses comme celles-ci se produisent. Tout cela fait partie du processus d'exploration et de découverte. Tout cela fait partie de la prise d'opportunités et de l'élargissement des horizons de l'homme. L'avenir n'appartient pas aux faibles de cœur, il appartient aux braves. Rien ne s'arrête ici. Ce jour-là, il y a 390 ans, le grand explorateur Sir Francis Drake mourut à bord d'un navire au large des côtes du Panama. De son vivant, les grandes frontières étaient les océans. Un historien a dit plus tard, il a vécu au bord de la mer, y est mort et y a été enterré. Eh bien aujourd'hui, nous pouvons dire de l'équipage du Challenger, leur dévouement était comme celui de Drake, complet. L'équipage de la navette spatiale Challenger nous a honorés par la manière dont ils ont vécu leur vie. Nous ne les oublierons jamais, pas plus que la dernière fois que nous les avons vus, alors qu'ils se préparaient pour leur voyage. On dit au revoir de la main, et ont glissé les liens hargneux de la terre pour toucher la face de Dieu. Merci. Je vous ai menti. Il y a une dernière illustration qui accompagne Departure Songs. Une silhouette humaine se détache d'un fond noir. Elle découpe de l'eau qui projette une lumière bleutée. Son ombre est une fusée qui décolle. We Lost the Sea nous laisse libres d'interprétation, et je vais donc en faire de même avec vous. Musicale d'Awell. Merci infiniment pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine.